Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors le 29 janvier commencera l'année du serpent de bois. Et cela jusqu'au 16 février 2026. Oui, il se dégage beaucoup sur l'année, je trouve là. Enfin, c'est décalé.
Oui, bah.
Voilà. Alors après l'année 2024 sous le signe du dragon, le dragon de bois,
oui.
On ne peut qu'avoir de l'espoir car la planète a beaucoup souffert en 2024.
Clairement.
Climatiquement, politiquement et je dirais partout.
Oui,
presque.
C'est ça. Exactement.
Voilà, alors on va se persuader que le serpent va nous consoler et nous réserver de belles choses. Et c'est pourquoi on va parler aussi de légendes et de symboles dans ce 20e épisode d'Asialogie. Et toi Didier, tu vas nous expliquer en quoi les fruits incontournables pour fêter le nouvel an sont importants, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'esprit et pour le vivre ensemble. Et ça, on en a beaucoup besoin.
Et justement, et moi je voulais faire une petite aparté, tu vas pas être contente parce que j'ai mangé du temps, mais on est à la 20e émission, c'est-à-dire qu'avec depuis l'année dernière, c'est la 50e aujourd'hui d'Asialogie.
Ah oui, j'avais pas compté.
Et oui, je m'en doutais
c'est
bien.
C'est bien quand même.
Et donc je suis très contente de ça et je voulais te remercier de m'avoir embarqué dans cette aventure parce que ça fait 50 fois qu'on fait ça et j'adore ça.
C'est
et
très
je voulais
gentil,
te dire un
Didier.
Grand merci.
Ben moi aussi je te remercie parce que je trouve qu'on fait une super équipe.
Et j'espère qu'on le partage et qu'on en profite.
Oui oui, je sais qu'on a des auditeurs et des des auditrices et des auditeurs.
Alors maintenant que j'ai bouffé la baraque au
leur
niveau
fait
du temps,
une grosse bise là pour la nouvelle année.
C'est ça. Donc j'ai le chrono va
oui,
va,
oui,
va nous trahir en fin d'émission mais c'est pas grave. Donc le serpent, revenons au serpent, s'il te plaît. Il est donc un des 12 signes du zodiaque chinois, si je comprends bien.
Oui.
Et quelles sont donc ses caractéristiques maintenant, après le dragon de bois, à quoi on peut s'attendre avec le serpent?
Alors avec le serpent, bon, l'année du serpent de bois promet une période riche en transformation, encore une fois, mais en réflexion profonde.
Espérons.
Voilà, pour faire suite au bouleversement de 2024, cette année du dragon qui a été un petit peu néfaste, on va dire. Alors en effet, l'énergie du serpent est différente. Elle va nous inciter à l'introspection et à l'apprentissage. Donc c'est une notion nouvelle.
Qu'on nous entende.
Et différente.
Ouais.
Alors on peut espérer que cette remise en question va concerner la majorité de la planète.
Exactement.
Bien sûr. Et selon les astrologues chinois, les préoccupations environnementales seront enfin au cœur des discussions politiques mondiales.
Il est temps.
Je l'ai lu dans des articles sérieux d'astrologie certes, mais voilà.
Bon, on fera le
et
point.
Donc ce sera au cœur des préoccupations.
Bon, ça c'est une petite bonne nouvelle pour le monde. Donc du coup, nous donne-t-il des conseils pour aborder 2025 alors ces astrologues chinois?
Oui, il nous faut entamer individuellement et collectivement une introspection, comme je le disais, c'est vraiment une injonction.
Okay.
Ce qui veut dire profiter de cette période pour réfléchir à nos objectifs de vie et aux moyens de les atteindre.
Bon.
Il nous encourage à nous engager dans des activités éducatives et culturelles pour enrichir notre esprit et élargir nos horizons. C'est ce qu'on fait à Asialogie.
Écoutez, Asialogie, déjà, c'est un bon début.
Exactement, c'est un très bon début. Et il nous exhorte aussi à adopter des comportements respectueux de l'environnement, individuellement, et de soutenir des initiatives écologiques.
D'accord.
Voilà, on ne peut qu'être d'accord avec ce serpent de bois.
Oui, bien sûr.
Je trouve.
Alors du coup, là, on a vu sur le plan personnel, qu'est-ce qui nous réserve ce serpent?
Ah oui, l'horoscope en quelque sorte.
Je ne sais pas, mais oui.
Alors sur le plan personnel, une bonne nouvelle pour les célibataires. Cette année du serpent est favorable à l'éclosion de nouvelles relations amoureuses.
Ah bon, le serpent
forcément,
est favorable.
Ça va en toucher un certain nombre, c'est certain.
Ok.
Mais attention, des tentations pourraient mettre à l'épreuve les relations existantes.
Oui.
D'accord. La fidélité et la communication seront essentielles pour maintenir l'harmonie au sein des couples déjà constitués.
Clairement. Ok.
Alors il ne faut pas oublier que le serpent nous met face aux tentations quand même, dans notre propre culture.
Oui, mais oui.
Oublié.
Alors, quant aux traits de personnalité des serpents, on peut les définir comme intuitifs, sages et mystérieux, élégants, avec beaucoup de charme, persévérants, mais ils ont aussi tendance à être méfiants et jaloux et à s'isoler. Voilà, ils n'ont pas forcément de très très bon caractère. Et voilà, le serpent est plutôt compatible avec le bœuf et le coq, mais peut avoir des relations plus compliquées avec le tigre et le cochon.
D'accord. Bon,
ça aussi, je le tiens des astrologues chinois, Didier.
Étant chien, on verra ça plus tard. Ok, alors...
Finalement, tu dois à peu près bien t'entendre avec les
serpents. Oui, voilà, c'est ça.
Moi, je suis chèvre, alors
Alors, vous savez tout. Quelle est la symbolique liée au serpent, du coup, en Asie, s'il te plaît?
Alors, c'est un symbole de sagesse et d'intelligence. Hein. C'est un animal rusé, avisé, capable de se sortir de situations complexes grâce à sa réflexion. Et donc, le serpent est aussi un symbole de mystère et d'élégance, comme je vous le disais, par sa forme et ses mouvements silencieux qui en font une créature énigmatique.
Un petit peu, oui, c'est
liée,
vrai.
Ben oui, à des, une créature liée à des forces spirituelles. Il est vu comme un guide vers la transformation intérieure et la connaissance de soi.
D'accord.
Il ne faut pas oublier que comme le serpent mue, il est associé au renouvellement et à la résilience et il incarne l'idée de renaissance et de capacité à s'adapter dans un monde bouleversé.
Ok.
Alors le serpent est aussi traditionnellement vu comme un symbole de richesse et de chance avec une certaine ambiguïté car associé à la ruse, avec donc peut-être des intentions cachées ou de la jalousie.
Eh oui, et confiance, et
c'est
confiance.
Eh oui, mais tout à fait. Voilà. Alors, on croyait que croiser un serpent, avant, pouvait signifier l'arrivée d'événements importants ou de grands changements. Un petit peu comme le corbeau, si on se souvient.
Ok.
Bon, bah, moi, je vous propose de fêter cette nouvelle année du serpent qui s'annonce avec une authentique chanson chinoise. Pour fêter l'année du serpent, c'est Yu Che Bi Yu De. Et Che, je crois que ça veut dire serpent en chinois.
Ok. Eh bien, écoutons.
今天我要唱首歌，一首祝福你的歌，愿你能幸福快乐，好运永远围绕着。
人生就像一首歌，有人唱有人在和，
最重要平安喜乐，要珍惜每一刻，把快乐传给每一个。有舍必有得，有舍必有得，春暖花开就在这一刻。有舍才有得，有舍才有得，走过的路一切都值得。有舍必有得，有舍必有得，坚持梦想我不怕坎坷。有舍才有得，有舍才有得，祝福你能永远的快乐。有舍有得。
Alors voilà, là, on a découvert donc le hit de l'année.
Oui, le futur
serpent.
Hit, oui.
Voilà, ah bah, c'est d'actualité, là, on est en plein dedans. Donc du coup, maintenant, moi, j'aimerais bien quand même savoir un petit peu plus sur les différences entre la représentation du serpent qu'ont les Chinois, les Coréens, les Japonais. J'imagine que c'est un petit peu différent.
Oui, il y a des différences qui sont liées aux légendes, hein, puis aux croyances locales.
Oui.
Mais le serpent occupe une place importante dans toutes les cultures asiatiques.
D'accord.
Il était dans toutes très élargies, hein, pas que Corée, Japon, il y a aussi la Thaïlande, Cambodge, Laos, tout ça qui sont concernés, qui aiment bien le serpent.
Oui.
Alors, le serpent était souvent perçu comme un gardien protecteur qui vivait près des maisons pour protéger les familles contre les esprits malveillants. Et comme les dragons, bah, les serpents sont également associés à la fertilité et à la prospérité, car ils vivent souvent dans des milieux au sol riche et fertile.
Ben oui.
Voilà. Alors, dans le chamanisme coréen, le serpent est vu comme un médiateur entre le monde des vivants et celui des esprits. Il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont médiateurs. Mais malgré son rôle positif, il est aussi redouté pour sa dangerosité et son imprévisibilité.
D'accord.
Alors, je vous rappelle l'histoire coréenne de Limugi, le fameux serpent qui aspire à devenir un dragon. Et pour, vous savez, le gros serpent, voilà, il doit attraper la perle. Et s'il l'attrape l'attrape pas, s'il l'attrape jamais, il ne deviendra jamais un dragon. Et il va rester un serpent qui pourrait devenir, je le mets au conditionnel parce que tous ne le deviennent pas, il pourrait devenir maléfique.
D'accord.
Voilà, donc je peux conclure en disant que le serpent est donc ambivalent.
Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait une petite légende particulière, célèbre, sur les serpents en Asie, dis-nous ?
Oui, 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 Didier, surtout en Chine, c'est la fameuse et merveilleuse légende du serpent blanc.
Ouais.
En chinois, c'est Bai Chitsuan. Donc, c'est l'une des légendes les plus célèbres de la culture chinoise. Donc,
d'accord.
Effectivement, Che, je me souviens, c'est serpent, parce que Bai, c'est blanc
d'accord.
en chinois.
Okay.
Bai Che, c'est serpent blanc.
Okay.
Et Chuan, j'imagine que ça veut dire légende.
Bon,
voilà.
Je suppose. C'est pas moi qui le contredirai.
J'aimerais bien des fois qu'on me contredise. Mais j'aime pas beaucoup de monde finalement.
D'accord.
Alors, cette légende mêle amour, mysticisme et lutte entre le bien et le mal tout en reflétant des valeurs culturelles profondes, donc chinoises en l'occurrence.
D'accord.
Alors, je vais vous faire un petit résumé. Vraiment petit résumé.
Ouais, ouais,
alors, c'est dans des temps très anciens, pour aller vivre sur Terre, Bai Shuzhen, un esprit serpent blanc,
d'accord.
s'était entraîné. Avec un E, c'était un serpent féminin,
d'accord.
pendant des milliers d'années pour devenir une immortelle sous l'apparence d'une belle jeune femme.
Ouais.
Elle s'était beaucoup, beaucoup entraînée.
Mmh.
Alors, elle a réussi et une fois devenue une humaine immortelle, elle est descendue dans le monde des humains, un petit peu comme l'histoire de l'ours coréenne.
C'est ce que j'allais dire, ça me
qui
parle,
avait
ça.
Mangé de l'ail et de l'armoise pour devenir humaine. C'est
voilà.
un petit peu l'idée.
C'est le même principe.
Voilà. Et donc, elle vivait parmi les humains, Bai Shuzhen.
Ouais.
Et un jour, elle va rencontrer Chu Qian, un jeune homme honnête et gentil.
Mmh.
Et ils vont tomber amoureux, se marier et avoir... Un fils.
D'accord.
Mais leur bonheur va attirer l'attention d'un moine un petit peu retors, nommé Fa Hai, qui va se rendre compte que la jeune femme était un esprit serpent blanc.
D'accord.
Et il va considérer leur union contre nature et va tout faire pour les séparer. C'était pas très sympa.
Non.
Et Fa Hui va convaincre le mari de Bai Shuzhen, de faire boire à sa femme un vin magique.
D'accord.
Ça rappelle un petit peu aussi l'histoire de
Shang-Chi,
la princesse de la lune.
Oui. La renarde à 9 queues, non ?
Aussi,
eh
ça
oui.
c'est un... oui, oui, oui.
Aussi.
Parce que oui, donc tout à fait, parce que Bai Shuzhen, bien sûr, elle va boire le vin, et ça va la saouler un peu, et, et ça va, elle va bien sûr, je dirais, perdre son attention,
d'accord.
et elle va reprendre sa vraie forme de serpent blanc,
ah.
comme la renarde à 9 queues,
d'accord.
comme tu disais, Didier, celle qui va échapper,
eh ben oui.
qui laisse échapper ses magnifiques queues sous sa robe,
c'est
comme ça.
D'accord.
Alors Didier, devant ce serpent blanc, figure-toi que le pauvre Sichuan a eu tellement peur qu'il en mourut.
Oh, mince.
Alors désespéré, Bai Shuzhen va se rendre, malgré tous les dangers, au royaume céleste taoïste pour voler une herbe divine magique
d'accord.
pour sauver son mari.
Comme quoi.
Voilà, okay. mais après avoir réussi, parce qu'elle va sauver son mari,
d'accord.
Bai Shuzhen, elle va être emmurée par le moine
Fahai.
Voilà, sous la pagode Laifeng, près du lac de l'Ouest à Hangzhou.
Ouais.
Et c'est une ville qui existe vraiment.
Sûr,
le lac
ouais.
de l'Ouest existe vraiment.
D'accord.
Et c'est à l'est de la Chine. Et c'est une pagode très célèbre
J'imagine
que l'on peut
qu'il y a
visiter.
Des gens qui vont, voilà, c'est
Mais
ça.
Bien sûr, on peut la visiter.
D'accord.
Alors, selon certaines versions, Chu Qian va devenir moine pour expier sa faute parce qu'il a trahi un peu sa femme. Quand même.
Un peu, Et lui avait sauvé la vie quand même, malgré tout.
Voilà. Et c'est leur fils qui va réussir à libérer Bai Shuzhen de la pagode grâce à ses grandes vertus et sa piété.
D'accord.
Alors moi je dirais que c'est plutôt une histoire triste hein, qui explore l'idée que l'amour peut transcender les barrières, même celle des humains et le monde surnaturel.
D'accord.
Et que Bai Shuzhen, bien que serpent blanc, était bien plus humaine que le moine.
C'est clair. Bah, du coup, il y a eu des adaptations de cette légende, non ?
Oui, de nombreuses adaptations, Didier. La légende du serpent blanc a inspiré de nombreux opéras,
d'accord.
des films, des séries télévisées, des romans,
Allons-y.
Beaucoup de livres pour enfants.
D'accord.
Et parmi les plus célèbres, il y a un film d'animation qui est magnifique, qui date de 1958, qui est un classique du cinéma chinois. Et je vous recommande sur Netflix une série de 2019 qui s'appelle The Legend of the White Snake.
Okay.
Et voilà, donc on peut retrouver donc, l'histoire du serpent blanc. Et je me demande même si le film d'animation n'est pas sur Netflix.
Ok, ben, on va découvrir.
Voilà, histoire intemporelle qui continue de captiver toutes les générations. Donc, Bah, on refait une petite pause musicale pour fêter l'année du serpent. On va écouter Angoon, qui chante The Year of the Snake, justement.
C'est ça.
It's my emotions go up and down the drain. Hidden stories to be told. These lines in our hands. If everything's already written, don't tell me how it ends. Faces come and then they go, leaving scars or smiles. Wounds can heal, but still the echoes lingering inside. Remember hitting the new low, living in a lie. You're one of the worst I know that happened in my life.
Bah, c'était Angoon.
C'est ça.
Dans Asialogie et sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Bah, Angoon, c'est une chanteuse française.
Aussi, hein, oui, donc on peut aussi trouver cette version-là en français.
C'est ça. Donc ce sera l'année du serpent, j'imagine, en français.
On vous l'a mis en anglais, mais elle existe aussi en français.
Oui, on l'a préférée en anglais.
Oui, j'avoue que moi, je préférais aussi. Oui.
Alors, quelle place occupent les fruits en Asie, Didier ?
Ah ah ! Eh bien, les fruits ont une place centrale, en fait, dans tous les pays d'Asie. Bon, bien sûr, on les retrouve dans l'alimentation quotidienne, mais en plus de leur grande qualité nutritive, ils ont une signification symbolique, en fait. Ils sont liés à la spiritualité, au rituel, à l'art et aux interactions sociales. En Asie, du fait de la géographie et des climats différents, on trouve une diversité exceptionnelle de fruits.
Ah oui,
bien sûr.
Ça,
eh oui, il y a tous les climats. Donc il y a des fruits tropicaux comme les mangues, le litchi, le durian, le ramboutan, les fruits du dragon, l'ananas, mais aussi des fruits de climat tempéré comme les pommes, les poires, les oranges, les citrons, les cerises. Enfin voilà,
on
trouve donc de
fois.
Tout. Mais oui, puisque il y a quand même beaucoup de tous les territoires et tous les climats. Et donc en Asie et en Chine particulièrement, ce sont toutes sortes de fruits toute l'année. Par contre, au Japon, les fruits sont plus rares. Et très très cher.
Ben oui, pas du tout la même géographie.
C'est pas pareil. Oui.
C'est pas pareil. La Chine, il y a de tout.
C'est grand.
C'est grand. Voilà, jusqu'au tropique. C'est vrai. Alors, comment on les mange, les fruits, et quand on les mange en Asie, les fruits ? C'est peut-être un petit peu différent de chez nous.
C'est tout simple. Les fruits sont souvent consommés frais, mais aussi en jus, dessert, séché, et souvent utilisés en ingrédients dans des plats salés aussi. Alors, leur richesse en vitamines, fibres et les sels minéraux les rendent essentiels, bien sûr, dans l'alimentation traditionnelle. Manger, c'est aussi se soigner,
je vous rappelle,
en Asie, attention.
On en avait déjà parlé
pour exemple, les baies de goji chinoises, les jujubes, les kakis, tout ça fait partie de prendre soin de soi aussi. Les fruits sont souvent mangés en dessert ou consommés le soir devant la télévision comme un grignotage à toute heure. Ils sont souvent partagés en famille, présentés, coupés avec soin. Ne pas oublier que les fruits sont des cadeaux très appréciés, on en a déjà parlé, considérés comme un geste d'amour filial.
Oui, c'est vrai qu'on n'offre pas des fleurs, Mais... on utilise les fleurs pour la déco, mais on ne les offre pas. On offre des fruits dans des belles corbeilles
et en
très
même temps,
bien emballées.
C'est pas une mauvaise idée. On fait un plaisir et puis en même temps, c'est bien agréable.
Voilà, oui, c'est un plaisir partagé.
C'est
alors, c'est quoi la symbolique des fruits en général, Didier ?
Alors, ils représentent la prospérité, la fertilité et le bonheur, en fait, dans le bouddhisme et l'hindouisme. Ils sont utilisés comme offrandes dans les temples pour honorer les divinités,
voilà, beaucoup,
peut, voilà, c'est ça, sur les autels. Et dans le confucianisme, ils sont des symboles d'harmonie et de respect. Les fruits occupent aussi une place centrale lors des fêtes de cérémonies comme les mandarines, les oranges qui sont échangées pour le nouvel an lunaire, qui est un signe de bonne fortune en fait. Donc offrir des fruits, c'est aussi tout simplement l'expression de l'hospitalité, c'est signer le plaisir de recevoir les fruits rares ou coûteux comme le melon Yubari, qu'on a le musk melon.
Oui,
vous
en avez
fameux...
parlé déjà.
Ouais, voilà. Mais là, le durian aussi, où les cerises sont souvent réservées aux invités d'honneur.
Oui, le melon Yubari, c'est musk melon.
C'est
il y en
ça.
A qui coûtaient entre 80 et 200 euros.
Oui, oui,
hein,
je ne sais plus combien de milliers de yens, là, millions de yens, c'était affolant.
Oui, c'était affolant. Oui, je voulais parler des mandarines et des oranges. Il faut savoir qu'il y a un très grand pays producteur. C'est la Corée,
d'accord,
avec l'île de Jeju, qui a paraît-il qu'elles sont excellentes.
Ah, moi, je vais bien goûter, moi.
Écoute, on essaiera de s'en faire rapporter. Alors, les fruits sont souvent représentés aussi dans l'art asiatique,
oui,
Didier.
Oui, notamment dans les peintures traditionnelles chinoises, coréennes et japonaises. Les fruits sont tous très beaux, il y en a des magnifiques comme le fruit du dragon ou la carambole en forme d'étoile.
C'est vrai que c'est beau.
En pâtisserie j'utilise, c'est très joli,
très,
coupé,
très beau.
Ça fait des jolies petites étoiles, symbolise les concepts de philosophie et l'impermanence comme les cerisiers en fleurs ou l'harmonie comme les grappes de raisin.
D'accord.
Oui, c'est ça. On les utilise également pour décorer les tables, pour les fêtes. En résumé, les fruits en Asie vont bien au-delà de leur rôle alimentaire. Ils représentent des valeurs culturelles et spirituelles profondes et jouent un rôle important dans les relations humaines.
Alors, Didier, tu nous as évoqué le durian.
Eh oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce fruit ?
Venons à ce fruit.
Qui a une si drôle réputation.
Comme tu dis, il a une drôle de réputation, effectivement. Alors, le durian est considéré comme le roi des fruits. Alors, sa taille, son poids sont impressionnants. Donc, il pèse en général au moins 3 kilos. Il peut atteindre 10 kilos parfois et mesure entre 15 à 30 centimètres au moins.
Oui, c'est un gros fruit.
C'est pas un tout petit truc, quoi.
Oui.
C'est l'un des fruits tropicaux les plus célèbres et les plus controversés d'Asie du Sud-Est. Vous allez savoir pourquoi. Alors, sa réputation, elle repose sur sa saveur unique et surtout son odeur, Corinne.
Oui.
Puissante, voire, je dirais même plutôt gênante.
Oui, je pense.
C'est clair. C'est une très grosse baie ovale avec une écorce verdâtre, épaisse. C'est recouvert en fait d'épines acérées. On peut imaginer que c'est assez difficile à éplucher sans connaître bien la technique, mais sa chair est jaune, dorée et douce, crémeuse et sucrée. C'est très onctueux, c'est très bon.
C'est un fruit étonnant quand même.
Hein. Ah, clairement.
Tu peux nous décrire l'odeur et la saveur, Didier?
Ah ouais,
parce qu'à la radio, on
est à la radio, ça va
montrer.
Être compliqué, mais on essaye. On peut dire que son odeur est légendaire, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains disent que le durian a une odeur pestilentielle, mais un
carrément
goût délicieux. Mais c'est ça. Hein. Les animaux comme les singes et les écureuils sont capables de le flairer à 1 km et même les tigres en raffolent. C'est le fruit très spécial, a des arômes complexes, avec des notes d'abricot, de banane, caramélisées, d'amande. Moi, je dirais crème pâtissière amande, moi, c'est mon truc.
Oui, c'est très bon.
C'est
ça.
Son odeur est complexe aussi, là, par contre. Hein. Notes d'eau usée, de poubelle, d'oignon, de fromage, donc vous imaginez bien.
C'est dur.
C'est pas facile. Tu comparais en parlant,
goûter.
En préparant, on disait
si on a
c'est du maroilles, quoi.
C'est
doux à manger, mais ça sent pas très, très bon. C'est pourquoi le durian, il est interdit dans les hôtels, dans les lieux publics, dans les transports en commun, dans les avions. Hein. C'est strict. Hein. Il y a des panneaux. Hein. J'ai vu sur Internet, il y a des panneaux interdits de fumer. Et le sigle
du durian
barré pour nous dire que c'est interdit.
Alors, comment on mange le durian, Didier ? Raconte-nous.
Ah, il se déguste généralement frais et nature, et donc difficile à en trouver partout. Hein. Pour une première fois, vaut mieux aller doucement, puis commencer par goûter durian dans une glace, un gâteau, une boisson. On trouve dans des supermarchés asiatiques.
Hein. Oui, j'en ai vu dans notre supermarché préféré.
J'ai pas cherché, mais ça m'étonne pas.
Sur la
c'est
route,
ça. Voilà, pas loin.
Là-bas, au nord.
sans publicité. On trouve aussi des morceaux de pulpe au rayon frais oui. et au rayon surgelé. Il est très bon en compote, en coulis, sur du riz au lait. Tu l'as
oui.
dit ça
il faut Oui, que j'ai testé, c'est délicieux.
Moi, je connais quelqu'un avec qui je peux essayer ça, ça va être très bien. Mais attention à la surconsommation du durian. Il est bourré de vitamines, de fibres et de sels minéraux, d'antioxydants, mais il est aussi bourré de sucre, de lipides et très nourrissant. Et difficile à digérer, donc on y va doucement.
Oui.
Chaque année, la presse relate plusieurs décès hein, quand même, hein, par overdose
oui,
de durian.
Oui, ça c'est impressionnant, ce truc-là.
Associé à de l'alcool, car le soufre contenu par le fruit empêche d'éliminer les toxines.
Oui, donc il faut vraiment s'en méfier quand
voilà,
même.
Voilà, puis on
ne
boit
averti.
Pas trop d'alcool, a priori. Avec,
voilà.
Il est aussi déconseillé aux personnes hyper tendues et aux femmes enceintes. Alors, je vais faire attention, vous aurez compris pourquoi. Pas parce que je suis enceinte. Hein. par ailleurs, il aurait des vertus aphrodisiaques.
Ah oui ?
Oui, il y a un dicton malaisien qui dit « Quand le durian tombe de l'arbre, le sarong se lève. »
Ah, ça, c'est...
Alors, je vais bon, vous laisse méditer là-dessus pas... et on va passer à autre chose.
C'est drôle. Mais t'en as d'autres, des anecdotes de
bien,
ce type, Didier ?
Bien sûr. Bon, moins drôle, je te l'accorde.
Oui.
En Thaïlande, on organise chaque année des concours de meilleurs durians. Alors, les scientifiques ont identifié récemment un gène responsable de son odeur. C'est le gène puant.
Ah, ils l'ont baptisé
voilà,
comme ça.
Oh,
c'est simple.
Les graines du durian riches en amidon sont comestibles une fois grillées, un peu comme les graines de tournesol.
Ah oui, donc on peut manger voilà. les graines.
Malgré
D'accord.
tout, ouais. Les Malaisiens adorent tellement le durian que le dôme de l'opéra de Singapour ressemble à la coque de ce fruit. Le durian est donc devenu un icône culturel.
Bah, tu sais quoi, Didier, je l'ai vu hier soir dans une émission que j'aime bien, c'est Échappée Belle.
Ah !
Eh bien, j'ai vu le dôme de l'Opéra de Singapour.
D'accord.
Et effectivement, les présentatrices, enfin les journalistes
ouais, ouais.
de l'émission expliquaient que c'était lié au durian.
Bah, si tu l'as vu en replay hier soir, tu as peut-être moyen de le revoir. Hein, les auditeurs pourront le revoir.
Bon,
alors sinon, moi j'ai la petite info quand même du moment.
Dis.
Parce que je vous rappelle qu'on a parlé de l'année du serpent, mais ça veut dire qu'il y a des festivités à Paris.
Oui, oui, bien sûr.
Ces festivités,
sûr.
Elles ont
en
lieu
France.
Du 29 à Paris, oui,
oui.
Enfin en France, oui. Enfin, pardon, oui, j'étais très
à
parisien.
Paris. Parle-nous
parce qu'il y a, et sans, pour là, je pense que le moment phare qui sera donc le dimanche 9 février, le fameux
grand défilé.
Grand défilé, voilà, pardon, dans le 13e arrondissement.
La danse
très,
du
très
lion,
sympa
tout
à voir.
Ça.
Moi, je l'ai déjà fait une fois. J'aimerais bien y retourner.
Il y a
aussi.
Beaucoup de monde, hein, toujours.
Et alors, mais bon, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est le moment phare. Mais du 29 janvier au 16 février, il y a plein de choses à faire. Je suis sûr que
oui,
si vous traînez sur Internet, voilà, vous, et sur Paris, et en France aussi, parce que parfois dans les contrées de province, il y a aussi quelques petits défilés,
oui.
choses comme ça. Donc,
en Normandie, ils fêtent le nouvel an chinois plus que nous.
En tout cas, du 29 au 16 février, vous avez moyen de trouver quelque chose pour avoir un petit goût d'Asie et de fête du serpent pas loin de chez vous.
Et dans nos supermarchés, nos épiceries habituelles,
oh bah oui,
il y aura des choses pour fêter le
ah bah
nouvel an lunaire.
De propositions commerciales pour faire
voilà,
un tas de choses.
Nous aussi, pour faire la fête.
C'est clair.
Bon, Didier Asialogie,
c'est
fini.
C'est ça. Voilà.
Bon, c'est fini, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter samedi matin 9h30.
Effectivement.
Et bien sûr, un podcast sur Radio Alpa 107.3. Non, radioalpa.com cette fois.
C'est ça.
C'est ça. Donc rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa
107.3
FM Le Mans. Bonne semaine à tous. À très vite.
À bientôt. Thank you.